que j'ai donc l'enthousiasme même des associations du libre d'un côté, et d'un autre j'ai un baroudeur, un orateur depuis l'édition 2012, mais quand même je les remercie énormément de s'être prêté à l'exercice de l'interview, parce que quand même ils ont une sacrée capacité à récupérer après une édition bien éprouvante. Ça force le respect en tout cas, parce que là on est à peine 72 heures après la fin du bazar du livre, et pas de soucis, on répond au pied levé. Nous recevons donc Lionel Porcheron, fondateur et patron de la société Bimeo, spécialiste dans la gestion de serveurs, contributeur de la distribution Ubuntu, spécialiste du logiciel de cloud computing OpenStack et membre de Theta Neutral. Donc Lionel, rebonjour.
Rebonjour.
Et Emmanuelle Elie, bricoleuse de site web chez Machina Corpus, charmeuse de Python, cofondatrice du Capitole du Libre et sourire enthousiaste de l'association Tout Libre. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Donc, moi, ce que je veux savoir avant tout ça, on en a parlé, il y a une multitude de conférences qui existent, c'est pas une particularité française, loin de là, ce n'est pas un phénomène vraiment très récent, puisque des conférences techniques, il y en a toujours eu plus ou moins, d'ailleurs dans différents domaines, puisque dans le domaine de la chimie, de la physique, ça existe depuis le 19e siècle, mais quels sont les événements équivalents qui vous ont motivé à la création du Capitole du Libre ?
L'Ubuntu Party, les RMLL.
Il y a pas mal de choses.
RMLL, donc c'est les réunions mondiales du logiciel libre, donc francophone, donc ça veut dire qu'en général ça a lieu en France. C'est-à-dire si c'est mondial.
Ça a quand même c'est arrivé.
C'est parfois en Belgique.
Voilà, Belgique. Voilà,
ouais, c'est comme le Tour de France.
Ouais.
Donc c'est vous y étiez allé, ou c'était une frustration que ça n'ait pas lieu à Toulouse, ou d'y aller vous-même?
Ben, en fait, on avait essayé de se proposer pour accueillir les RMLL. Et puis, bon, finalement, ça n'avait pas marché. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'en fait, c'est énorme à organiser sur 5 jours. Il faut loger non seulement les intervenants, mais aussi le public, les nourrir pendant 5 jours. Tout ça, enfin, c'est, au niveau logistique, c'est tout simplement énorme, les RMLL. Et... Mais du coup, partant de là, on avait de l'énergie à l'époque où c'était il y a eu en 2009, 2010 peut-être. Et on a commencé à faire, si on faisait une Ubuntu Party comme à Paris, on a le soutien de Ubuntu France, on peut être aidé là-dessus. Et donc on avait commencé par là, à faire des conférences pendant une journée et une install party.
D'accord.
Ouais, ça a grossi petit à petit. On a commencé petit avec les Ubuntu Party qui se faisaient pas mal en France. Et petit à petit, ça a grossi. Il y a eu cet échec des RMLL à Toulouse. Et puis voilà.
Quelles sont les associations qui étaient à la base, puisque c'était pas qu'une rencontre informelle. Il y avait déjà des associations existantes, comme le CULT, le Club des utilisateurs Linux de Toulouse et les environs, avec un E minuscule dans l'abréviation pour dire que les environs à Saramonville, c'est un peu agaçant. Il y a Tout Libre, il y avait Toulouse Sans Fil et tout ça. Donc, quelles sont les associations qui étaient vraiment à l'origine ?
Tout Libre, et avec l'aide d'Ubuntu France, et puis localement... Je saurais plus. Beaucoup les clubs vidéo. Peut-être la première édition, c'est pas passé à l'N7.
Non, la première était.
Quand on a commencé à l'N7.
Ouais. On avait déjà des gens du club informatique qui étaient quand même venus jusqu'à Blagnac.
Ouais.
Mais c'était quand même effectivement principalement du Ubuntu France, l'association Ubuntu France, avec Christophe Sautier, son président, qui était à l'époque à Toulouse.
Alors, je parle à un informaticien, il n'a peut-être pas l'habitude, plus près du micro.
Donc Christophe, qui était effectivement à l'époque président d'Ubuntu France et qui est à Toulousain, et Thomas pour Tout Libre, qui avait pas mal initié le phénomène.
Avant même le départ, vraiment le lancement de la première édition, il y avait combien de personnes impliquées ? Il y avait combien d'orateurs qui étaient prévus ?
Non, je m'en souviens plus. Il y avait une thématique ou deux peut-être, une thématique des générales et une thématique...
C'était en 2011.
Quelque chose comme ça. Il y avait une thématique générale et une thématique découverte, technique, en fait, et c'est tout, sur une seule journée, avec une install party et un peu de stand.
Oui, c'était petit, c'était moins de 20 orateurs, Et c'était l'essentiel. Enfin, on commençait à travailler. Je me souviens d'avoir fait quelques réunions avec Thomas à l'époque. Enfin, on commençait au mois de juillet pour préparer assez tardivement.
Pour novembre, oui. C'était la belle époque.
Voilà.
Donc, ça a été le speed dès le début. Enfin, le manque de recul. Vous aviez déjà pris des conseils par ailleurs, justement, de gens qui avaient organisé ce genre d'événement?
Bah, on avait un peu l'expérience, effectivement, à droite à gauche de conférences, notamment Ubuntu France. Donc, ils faisaient quand même une Ubuntu Party qui était relativement importante à Paris, puisqu'ils, à l'époque, ils accueillaient 4000 personnes à la Villette. Mmh. On avait quand même... Enfin, l'avantage, c'est qu'on a fait grossir, on est parti de petit. Enfin, la première Ubuntu Party qu'on avait organisée à Blagnac, c'était une track dans une salle l'après-midi, donc il y avait 5 conférenciers qui succédaient hein, par heure entre 13h et 18h. Donc c'est pas trop trop compliqué, on arrive même sans trop d'expérience à l'organiser. Mmh. Et puis bah, petit à petit ça a grossi, c'est passé à 2 salles, et puis 2 salles, 2 jours.
À partir du moment où c'était 2 jours, je crois qu'on a commencé à s'appeler Capitole du Livre, je
ouais,
crois.
Ouais, c'est hein. Ça, c'est ce moment-là ouais. Où.
En 2011, où ça a basculé. Effectivement, ou 2012.
Je me souviens plus de l'année, effectivement, mais
tout est sûr.
Mais ça c'est pas mal d'apprentissage sur le tas au final aussi,
ouais,
donc.
Beaucoup.
Sur le premier lieu tel qu'il a été choisi, c'était naturel, c'était des gens qui étaient faciles à convaincre ou finalement c'était ça n'a pas été simple à essayer d'approcher.
Je me souviens plus trop des échanges qu'on avait eus. Non, je pense qu'on n'a jamais eu trop d'échanges. Enfin, c'est quelque chose qui me surprend d'année en année. C'est quand on contacte quelqu'un pour lui dire « Ah, je fais une conférence sur le logiciel libre. Est-ce que tu es intéressé par venir parler ?» Enfin, c'est rare qu'on ait comme réponse « Ah non, ça m'intéresse pas. » Enfin, quelqu'un qui est impliqué dans le logiciel libre qui dise « Ah non, ça m'intéresse pas. » Mais ah sur non, je ne suis pas motivé.
Sur le lieu lui-même, puisque donc c'est à l'INPN7 d'habitude.
Il y a des gens qui... C'est un peu difficile de faire franchir le périphérique parisien, mais à part ça... à part ça, non.
Ah bon
Non, l'INPN7, je ne sais même plus pourquoi on a atterri à l'INPN7 au départ. Enfin, on a un certain nombre d'anciens N7 dans la...
Peut-être.
On a dit, tiens, on va en parler au directeur, on le voit la semaine prochaine, je pense, et c'est parti comme ça. Mm-hmm. Donc non, ça a pas été très difficile. Enfin, on n'a jamais eu de difficultés à convaincre ni des participants ni des organisateurs particuliers. C'est vrai que le fait que ce soit aussi associatif, que ce soit pas, enfin, c'est quand même ça aide pas mal à ce que à motiver les bonnes volontés et pas, enfin, il n'y a pas de but mercantile ni quoi que ce soit dans la démarche. Donc bon.
Oui, c'est beaucoup plus détendu, quoi.
Alors, on va rassurer tout de suite ceux qui veulent faire fortune dans les conférences techniques et tout ça. Les premières fois, l'exercice est forcément négatif.
Oui, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir, des finances côté aussi bien Toolib que Ubuntu France à l'époque, qui nous permettaient de faire des, enfin, de taper dans le bénéfice annuel de cotisations, etc. Mais après...
Après, il y avait des entreprises aussi qui sponsorisaient, qui permettaient de financer une partie. Ouais.
On a un beau vivier à Toulouse d'entreprises qui gravitent autour du logiciel libre. Là aussi, c'est fait partie des bonnes surprises qu'on a d'année en année. C'est que globalement, chacun aime apporter sa petite pierre à l'édifice. Alors, c'est pas toujours des gros sponsorings. Hein. Enfin, on peut aller voir sur le site, il y a beaucoup de petits sponsors en bronze. Mais c'est des gens qui n'hésitent pas, qui reviennent d'année en année. Donc c'est quand même quelque chose qui est positif pour nous aussi.
D'accord. Il y a aussi une chose qui est importante. Alors, vous n'êtes pas à entrée payante. On a parlé tout à l'heure, par exemple, de Sudweb, Pariweb, TEDx, qui sont à entrée payante et qui, malgré tout, refournissent les vidéos gratuitement, mais ça signifie quand même qu'il y a des frais puisqu'il faut faire de la captation, donc des techniciens en général, du temps de montage, de l'habillage et tout le reste. En fait, est-ce que c'était un réflexe naturel de faire les saisies ou se dire c'est un petit plus, même si ça nous coûte, allons-y.
Moi, je pense que ça fait vraiment de la matière sur le logiciel libre et sur... soit faut faire découvrir des techniques, des technologies, pour aider les gens à mettre le pied à l'étrier sur certains aspects techniques, mais aussi pour découvrir des éléments, même s'ils ne sont pas venus à l'événement, que ce soit filmé, je trouve ça vraiment important.
C'est un vrai élément aussi qui permet de convaincre des orateurs de venir. Enfin, c'est important pour eux qu'au-delà des 50 personnes qui se retrouvent en face d'eux dans la salle, après, tout au long de l'année, ils aient la vidéo de leur conférence qu'ils puissent partager avec d'autres gens. Donc, plusieurs fois, il y a des gens qui ont vraiment insisté en disant « Ouais, mais on a bien les vidéos sur le site après, etc. » Donc, c'était quelque chose qui leur plaît, quoi, vraiment.
Et en plus, on a vraiment l'aide du club TVN7 pour nous aider à faire la captation vidéo. Enfin, c'est... ils font un travail de titan, je dirais.
C'est quelque chose, c'est quelque chose qui nous est possible aujourd'hui parce qu'on a les clubs effectivement étudiants de l'ENSET qui nous aident sur tous ces sujets techniques et qu'effectivement, aujourd'hui ils sortent 7-8 caméras et ils filment l'intégralité du week-end. Enfin, nous c'est un peu un service clé en main dont on bénéficie, quoi. On a assez peu d'efforts.
On se repose vraiment sur eux, ouais, c'est clair.
Ils sont vraiment très très motivés et on leur doit beaucoup là-dessus.
Paniquez pas, là, le coup de téléphone, c'est que tout simplement, j'arrive pas à l'insérer. Voilà, donc Gaël essaie de m'appeler. On va essayer de se démerder, c'est pas grave.
C'est le bazar ?
Oui, tout à fait. Tout à fait. On fait une interruption musicale. On rappelle que les vidéos sont disponibles sur le site capitoledulibre.org et donc elles sont disponibles sans limitation de durée. On peut même les récupérer pour les repartager puisqu'elles sont en général en licence
en
libre.
En Creative Commons.
Voilà. On est donc avec Emmanuel Elie et Lionel Porcheron, donc de l'organisation du Capitole du Libre. Donc, on va parler en fait justement de l'organisation de cette année, à partir de là, comment ça s'est passé, comment ça. Les espoirs, quoi, les trucs qui font plaisir. Et en fait, si on revient à l'année dernière, après l'édition qui a eu lieu donc en novembre 2014, où c'était une édition qui s'était très très bien passée, et quel en a été le bilan en SWAT ? Vous, ce que vous en aviez fait comme bilan de l'édition 2014 ?
Je ne me souviens plus.
Emmanuel.
Mais que c'était. Ça s'était bien passé. Que, ouais, en fait, tout avait à peu près bien roulé, que les gens étaient contents. On n'avait pas assez à manger le samedi soir.
Ouais, c'était surtout ça, je crois qu'on avait.
Ouais, je crois que le truc qu'on a.
C'était
qu'on
pas
retient.
La pénurie de bière, c'était vraiment la bouffe. Hein.
Ouais, c'était la bouffe. Ouais. Alors là, on était prêts, quoi.
Et que la salle de la conférence du samedi soir était beaucoup trop petite aussi.
Beaucoup trop petite, quoi. Là aussi, on était prêts.
Combien de tracks, de conférences, d'ateliers, de visiteurs ? Parce que je crois que, si je me souviens bien, en track, il y en avait une huitaine.
Ouais, 8-10.
Ouais, donc ce qui faisait à peu près 60 conférences, une quinzaine d'ateliers, une vingtaine de stands, si je me souviens bien.
C'est ça.
Et en visiteurs, je crois, je sais pas, mais à la louche, vous en aviez une idée ?
Bah, à la louche.
On est très mauvais en louche, mais on était plutôt de l'ordre du millier, ouais, à peu près. On a estimé sur le samedi et le dimanche.
C'est vrai que l'avantage, c'est que l'INP N7, c'est dans le centre-ville, c'est pas très loin, c'est juste derrière la Halle aux Grains, à côté de la Halle aux Grains, donc il y a des bars, c'est bien, pour les libristes. C'est très bien desservi par le métro et par les bus, donc il y a aussi de l'occasionnel qui passe, en plus du récurrent. Donc une soixantaine d'orateurs qui viennent, c'est comment en général ? C'est, vous êtes obligé de prendre des chambres d'hôtel ou bien vous arrivez à vous débrouiller
Il y en a qui ne dorment pas, qui
restent sur place.
Il y en a quelques-uns qui dorment chez l'habitant. Et l'an dernier, on avait réservé quelques chambres d'hôtel, effectivement, pour ceux pour qui on n'avait pas pu trouver chez l'habitant. Et pour ceux qui préféraient aussi. Mais ouais, pas énorme.
Et en tout, finalement, en gros, une fois les bancs publiés, vous êtes plutôt confiant sur les finances du projet ou vous dites, on est encore en dessous.
L'année dernière, on était un petit peu inquiet parce qu'on a été un peu juste au niveau sponsoring. Cette année, on était bien parti, on était assez confiant sur l'ensemble du projet. Et on est resté confiant jusqu'à.
On va y venir, ouais.
jusqu'à un lundi après-midi.
Voilà.
Mais en 2014, on avait, au bilan, on avait finalement, c'était pas l'équilibre, mais on était un peu en dessous, en déficit, mais très peu, quoi.
Globalement, sur l'ensemble des éditions, on arrive à peu près à l'équilibre.
Ouais.
Ouais, bon, alors, un resto en moins par mois, on devrait y arriver, quoi. Un bois et charbon en moins, hein. Allez, hop. C'est, j'explique, hein, c'est le rendez-vous mensuel des assos du Libre sur Toulouse.
Que chacun paye son repas, là. Donc voilà, ça, exactement. En fait, il n'y a pas de frais engagés.
quand commence vraiment la production de l'édition suivante ? À partir de quand vous arrêtez déjà la date et vous dites, ça y est, on commence, on la prépare ?
Fin avril. Hein, c'est ça.
Fin avril 2015.
Enfin, cette année, on avait vraiment, on avait attaqué très très tôt, puisqu'on avait commencé à discuter le 2 janvier de l'édition 2015.
D'accord, avec avec la gueule de bois et tout.
Voilà, c'était une idée de Manu. Hein,
Mon sauvage, j'avais vraiment la gueule de bois.
On commence jamais suffisamment en avance. Hein,
elle a dit, j'ai des restes, venez à la maison, on va discuter.
Ah, le traquenard.
CDL, ouais.
Effectivement, on a fixé la date en fin avril, début mai, je crois.
Et ouais, en fait, une fois qu'on sait la date du TGS de novembre, on Sébastien dit, ok, c'est le week-end précédent, comme ça, on perd pas de bénévoles.
Sébastien Laurent, si tu nous écoutes, voilà, c'est l'organisateur du TGS qui a aussi lieu ce week-end. Voilà, donc à mon avis, Futurapolis, ils vont perdre du public.
Ah ouais, ils sont organisés le même week-end.
Tu vois les CSP+, lecteurs du Point, qui veulent pas voir leur rédacteur en chef favori qui... à la convention Naruto, se faire dédicacer par l'actrice qu'on a vue dans les X-Files quand on était dans les années 90.
Cillian.
Ian Anderson. Private joke, pardon, excuse-moi. Quel est en soi ce premier objectif ? C'est déjà se dire, on va mettre plus de track ou on commence déjà par chercher de suite les sponsors ou on demande si les places, la salle est libre pour ces dates-là ?
La salle, faut qu'on ait les lieux, sinon, ouais. sinon c'est mort, pas possible. Ah. Donc on part aujourd'hui. On avait réfléchi en début d'année. On s'était dit avec malheureusement les attentats de Charlie Hebdo, on s'était posé la question. On a dit, est-ce qu'on va être embêté vis-à-vis de Bigipirate, etc. Donc on avait eu pas mal d'échanges, pas mal de réflexions en interne à Toulib pour savoir est-ce qu'on avait des alternatives à l'N7, etc. Et c'est vrai que bah, l'emplacement, la facilité, la connaissance des lieux nous poussent à revenir tous les ans à l'N7.
Ouais, et puis l'aide des clubs étudiants qui nous fournissent vraiment...
C'est-à-dire justement, il y a une aide logistique vis-à-vis de l'N7. Ils ont pas mal de clubs audiovisuels qui aident pour la captation et aussi en partie pour la logistique.
Pour la captation, un peu pour l'install party, puis il y a le foyer, enfin ils sont là quoi. Mmh.
Donc ça aide en plus, d'autant plus que ça soit dans une école d'ingénieurs de ce côté-là, puisqu'ils sont déjà sensibilisés et qu'ils sont volontaires pour participer.
Ouais.
Mmh. Oui, on a un nombre, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais enfin, sur tous les bénévoles de cette année, on avait 40% de bénévoles qui sont des étudiants de cette école qui viennent et qui nous aident sur le week-end, qui sont en plus des gens qui apprécient le logiciel libre dans le club informatique, etc., donc qui sont vraiment à même de nous aider. Mmh.
On en a parlé, on a dit que là, cette année, vous aviez justement, vous étiez vraiment confiant vis-à-vis des sponsors. C'est par la notoriété grandissante ou c'est parce que vous avez un discours mieux rodé pour les approcher ?
On reste une association, donc je ne suis pas sûr que notre discours soit mieux rodé.
On s'y est pris plus tôt. Cette année.
On s'y est pris plus tôt. Je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, les sponsors reviennent vraiment d'année en année. Donc, un sponsor qu'on a réussi à convaincre l'année précédente, on est à peu près sûr de le reconvaincre l'année suivante. Donc, c'est quand même un peu comme un bonhomme de neige, quelque chose qui gonfle chaque année. Par contre, c'est vrai qu'on a été relativement surpris, et on y reviendra certainement après aussi avec l'annonce de l'annulation, par la notoriété qu'a pris Capitole du Libre. Concrètement, cette année, si on reparle d'appels à proposition, on n'a pas fait plus de pubs que l'année dernière sur le nombre d'appels à participation, et on a reçu quasiment deux fois plus d'appels à participation que l'année précédente.
Ou alors c'est un besoin de certaines sociétés de se faire connaître et qu'ils ont réussi à débloquer un budget sur la communication ?
Oui, il y a peut-être des sociétés qui comprennent peut-être l'intérêt de sponsoriser des événements autour du libre pour se positionner un peu sur l'open source, parce que ça, bah, ils se rendent compte que ça peut leur servir.
Et comment on fait, puisque j'ai dit que c'était fait bénévolement, par, en général par des professionnels. Lionel, toi, tu es chef d'entreprise. Emmanuel, tu développes dans une entreprise qui est sensibilisée par rapport justement au logiciel libre et qui le promeut. Mais est-ce que des fois, c'est pas compliqué de dire ben, pendant une semaine, deux semaines, tu vas plus me voir, je vais être sur autre chose, alors que peut-être il y a des choses à faire dans la boutique, il y a le feu au dépôt Git et tout le reste. Lionel, vis-à-vis de tes clients,
c'est jamais facile. Hein. Enfin, après, on fait des choix, on essaye de trouver un équilibre. On dort un petit peu moins pendant deux semaines. Mais bon, après, je pense que c'est super intéressant. À titre personnel, je trouve que c'est hyper enrichissant de rencontrer plein de gens qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de rencontrer... professionnellement, donc
ouais, en restant dans d'autres zones,
je pense qu'on est prêt à poser quelques jours de congé et à dormir quelques heures en moins la nuit pour arriver à ce résultat aussi.
Emmanuel, de ton côté, c'est comment? C'est un nombre de jours qui est fixé à l'avance ou on te dit ouais, non, ça va?
Non, plutôt ouais, non, ça va, je fais beaucoup. Pas spécialement d'heures sup, mais en fait, ouais, pendant deux semaines, là, ces deux dernières semaines, j'ai. Ouais, la dernière semaine, j'ai posé des jours, hein, ça, clairement. Mais sinon, je travaille pas mal le soir à la maison. Et puis, un petit peu la journée, entre midi, tout ça. Et après, j'ai un patron vraiment compréhensif là-dessus, parce qu'il est... il est convaincu du truc, en fait. Convaincu de l'intérêt du logiciel libre, convaincu de l'événement, et...
Ça aide énormément, quoi. Clairement. De ce côté-là. Eux-mêmes, je crois qu'ils ont été sponsors, d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. Depuis le début, en fait.
Mmh. D'un autre côté, il y a une explosion du nombre de thématiques qui arrivent. 11 thématiques. Est-ce que il n'y a pas eu un excès d'enthousiasme ou se dire, il faut qu'on s'ouvre plus à d'autres univers en parlant de la philosophie elle-même, plus de graphisme, plus de 3D, tout ça.
On était parti sur le fait de prendre un bâtiment supplémentaire cette année, notamment pour la conf de clôture, la conf du samedi soir, où on disait, oh là là...
C'est pas une clôture, puisqu'il y en a le lendemain, c'est la conf de mi-temps, oui.
On l'appelait historiquement conf de clôture, mais elle n'est plus de clôture.
En fait, c'est plus la conf de préparation d'apéro. Hein,
voilà, c'est pour se préparer.
Les orateurs vous leur bien sur le...
sur la vidéo,
devant le micro, quoi, en fait.
Et donc on voulait un autre bâtiment de l'ENSET, effectivement, qui nous donne un amphithéâtre de 400 personnes à la place de l'amphithéâtre de 150 ou 170 personnes qu'on avait l'année précédente. Donc on s'est dit, on a un bâtiment supplémentaire, donc on peut grignoter un peu, on peut caser des choses en plus. C'est vrai qu'il y a les gens du graphisme et de la 3D qui sont... étaient pas mal autonomes, enfin qui sont organisés de leur côté, donc on leur a un peu fourni des salles clés en main et après sont débrouillés pour faire leur programme. Donc
en plus le Capitole du Libre accueille en fait d'autres événements, en fait des tracks sont réellement indépendants, sont organisés par des associations spécifiques. Il y a celui de l'environnement graphique KDE, il y a celui concernant Blender. Et d'autres?
Il y en avait un sur FreeCAD cette année, et effectivement, Blender, ils avaient un peu débordé sur graphisme, ils acceptaient de faire de la 2D, donc il y avait des scales, des choses comme ça.
Alors, en même temps, c'est pas mal pour faire du compositing vidéo, donc ça, 2D, ça les aide, oui. En soit, comment ça se passe justement avec ces assos? Il y a quand même un petit peu de coordination, ou vous les voyez plus passer, et après ils vous disent, on a un tel.
Il y a de la coordination, l'année précédente, on avait... c'était plus flagrant, en fait, l'année encore avant, où il y avait France.js, LuaScript, les deux autres, c'était KDE.
On a Drupal qui est venu, et Django qui est venu.
Ça, c'était une autre année, je crois. Enfin, donc, il y a vraiment des événements hébergés, en fait, qui, eux, sont autonomes sur leur programme. Mais après, tout ce qui est logistique, sponsoring, déplacement des orateurs, c'est mis en commun dans l'organisation. Donc forcément, on est en relation tout le temps avec eux. Enfin, on essaye de communiquer au max ensemble.
Sur l'ensemble, donc vous avez dû, c'est là où vous êtes venu me chercher, hein, pour être honnête. Donc il y a eu plusieurs tracks supplémentaires. Est-ce que finalement ça commençait à être un petit peu trop gros? On se dit non, il faut préparer la suite si jamais l'un de nous est indisponible, qu'au moins ça puisse continuer parce qu'on aura commencé à former des gens et qu'ils auront les clés pour continuer l'événement Capitole du Libre.
Ouais, il y a un peu de ça. Il y a aussi, l'an dernier, il y avait déjà des thématiques un peu dédiées, multimédia, qui n'étaient pas forcément un événement dedans, hébergé. Il y avait Découverte, il y avait
Microsoft,
Enjeu dit libre. Non, ça, c'était France JS, pas pareil. On a accepté les orateurs. Parler de libre, donc bon.
Les deux David, quand même, sont, on espère les avoir un jour dans cette émission d'ailleurs. Ouais, David Catu et David Rousset.
Et voilà, il y avait déjà 5-6 thématiques l'an dernier, pas forcément événement hébergé, mais on était qu'un petit noyau à choisir les conférences. Et puis là, cette année, on s'est dit, on va faire un référent ou deux par thématique. De manière à effectivement d'agrandir, de fournir des fait que les gens s'impliquent, et puis aussi de façon à alléger l'organisation du kernel. Alors après, est-ce que c'est un choix, le bon choix, est-ce que ça a été bien fait, tout ça, on n'en a pas encore tiré le bilan, quoi. Je sais pas, Lionel, si tu veux dire.
Ouais, je pense. On était parti effectivement de dire que si on grossissait, on n'était plus capable, les corps, ceux qui gérions toute la logistique, etc., d'assurer un suivi tel qu'on l'imaginait après de 97 conférences, donc 97 intervenants ou quelque chose comme ça.
L'accueil, c'était pas possible.
Donc, c'est vrai que c'est important, je pense, pour les intervenants d'avoir un contact, d'avoir quelqu'un pour savoir où est-ce qu'ils doivent aller, où est-ce que, etc. Donc ça nous semblait être un bon moyen d'impliquer des gens supplémentaires dans l'organisation de cet événement.
Parce que si je compte bien, 11 tracks différents, c'est peut-être le plus gros organisation de salons techniques sur le sud de la France en matière diversité.
Alors j'aimerais préciser un truc, ouais. C'est que le Capitole du Libre, c'est pas que technique. En fait, on a un double objectif, c'est de toucher à la fois le grand public et le public technique. Du coup, il y a des conférences depuis le début qui sont plutôt grand public, généraliste. Et la plus grande, je sais pas.
C'est quelque chose qui est quand même assez unique d'ailleurs d'avoir cette dualité par rapport à toutes les conférences qu'on peut trouver. Enfin, il y en a assez peu qui sont ouvertes justement sur des thématiques plus générales de c'est quoi les libertés, c'est quoi. Pourquoi ma vie privée, etc.
C'est vrai que c'était la thématique importante cette année, elle était prémonitoire. Juste pour conclure sur le nombre de tracks en parallèle, il y avait une excellente conférence qui avait eu lieu à Paris Web il y a 2 ans sur le paradoxe du choix, où en fait on entraîne la frustration et voire parce que les gens des fois hésitent de choisir parce qu'ils ont peur, une fois qu'ils ont choisi, d'être frustrés en se disant qu'ils n'ont pas fait le meilleur choix. Ça s'appliquait au e-commerce, mais ça s'appliquait tout aussi bien finalement à cette conf par rapport aux autres confs qui étaient en parallèle. Et du coup, il y avait plein qui ont fait remarquer que justement, là où c'était intéressant, les conférences techniques comme Sudweb ou Kiwi Party ou d'autres comme TEDx, c'est que c'est monotrack. Et du coup, il y a un scénario qui se met en place, c'est-à-dire que les confs se rebondissent entre elles.
Ouais, effectivement, je vois ce qu'ils veulent dire.
Ouais, mais justement, vous vous dites, non, tant pis, il faut qu'il y en ait un maximum pour pas que les gens se sentent frustrés à un moment.
Je sais pas, c'est de la frustration. Enfin, aujourd'hui, l'idée, c'était un peu d'être ouvert aussi aux gens, de venir parler de ce qu'ils avaient envie de parler. C'est vrai qu'on avait une disposition physique aussi, en termes de salle, qui nous arrangeait plus en plein de petites conférences qu'une énorme track, donc ça a certainement joué dans notre esprit de faire de multiplier les tracks plutôt que d'avoir une énorme salle pleine. Et je trouve, c'était aussi dans l'objectif initial et dans l'historique de Capitole Libre d'avoir un peu cette pluralité. Alors peut-être qu'on l'a poussé à l'extrême, de toute façon, aujourd'hui, on atteint, enfin, en tout cas, à l'ENSET, la limite du nombre de locaux. On va, à part s'ils construisent de nouveaux bâtiments, ça va être compliqué de faire plus de tracks.
Donc, c'est sûr. Non, je pense que c'est vraiment important d'accueillir et le grand public et le public technique et que ces publics se mélangent.
On en vient à ce lundi 16 novembre 2015. Et là, bah, malheureusement, grande interrogation, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas ? Réunion donc avec l'administration de l'école, l'INP, N7, c'est eux qui ont exigé la réunion ou c'est vous qui avez demandé ?
On a assez vite pensé, en fait, quand on a vu les événements de vendredi soir, qu'il y avait potentiellement... Il y avait un risque potentiel, donc on leur a envoyé... Enfin, je leur ai envoyé un message dans le week-end en leur disant, bon, je pense que vous allez... en discuter ce matin entre vous, donc revenez vers nous dès que possible. Ils m'ont répondu lundi matin à 8h en me disant oui, on en discute et oui, il y aura des choses, on revient vers vous dans la journée. Et ils m'ont rappelé en début d'après-midi en me disant bon, ben, on est désolé, mais suite à concertation avec le rectorat et la préfecture, ça va pas être possible cette année.
Donc ils vous ont même pas fait une proposition, puisque en fait ce qu'ils disaient c'était de filtrer, la problématique était de filtrer les gens à l'entrée. Ils vous ont même pas proposé ou suggéré de prendre des gens supplémentaires à l'accueil. Et ils vous ont dit non, d'entrée non.
Ouais, leur Twitter après était un peu plus ouvert que ce qui nous a été présenté au téléphone.
On va se prendre des grèves d'étudiants dans l'année.
Après, enfin, je trouve que le message de Twitter, enfin, moi, je le trouve positif dans le sens où où il était quand même. Je ne suis pas sûr que le président de l'INP savait en vrai ce qu'était le Capitole du Libre le lundi.
Sachant que
l'INP, je crois qu'il sait.
L'INP, c'est assez grand et il y avait d'autres événements hein, aussi qu'ils ont le même week-end dans d'autres endroits qu'ils ont aussi été annulés par l'administration de l'INP pour les mêmes raisons.
Oui, c'est pas. Enfin, il n'y avait pas une volonté de nuire au Capitole. Enfin, je pense qu'on a très très bon rapport avec l'ensemble de l'administration ou les services techniques, mais. Et donc, bah voilà, je pense que c'était une des preuves qu'on a eues dans la semaine de la notoriété qu'avait pris l'événement pour que bah, voilà, l'INP se fende d'un communiqué qui était une sorte d'un peu de mea culpa aussi, quelque part.
Ouais, parce que d'après ce que j'ai compris, silicone.fr, donc la presse technique, ok, mais ça a commencé à déborder, la dépêche du midi, côté Toulouse, et d'après ce que j'ai compris, il y a même eu une dépêche AFP, donc ça commençait à monter, quoi.
Ah, j'ai même pas vu ça, moi.
J'avais pas vu la dépêche.
Sérieux ?
Non, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc,
on n'a pas eu le temps de faire une revue de presse, là, je crois.
mais rien que sur Twitter, ça faisait du bruit. Hein,
donc, ouais. Donc, annulé...
C'est tout petit, Twitter.
Oui, tout à fait. Annoncer l'annulation et vouloir faire autre chose, c'était... pour protéger la marque ou éviter d'annoncer une annulation définitive beaucoup plus tard ?
Alors, très honnêtement, j'assume ce que je vais dire. Moi, j'étais parti sur une annulation pure et simple parce que je me voyais mal rebondir. Enfin, je me voyais mal gérer 97 orateurs à recaser autrement ailleurs.
Dont Jérémy Zimmermann.
Mais il n'y a pas que lui, il y en a plein.
Il y
en avait 96 autres.
C'était beaucoup trop gros pour recaser dans un autre endroit, ça c'était évident.
Donc c'est vrai que, en plus, moi on avait un certain nombre de. J'avais des contraintes aussi au niveau du boulot dans la semaine. Je pouvais pas arriver en disant je pose une semaine de congé, on réorganise tout en une semaine. Donc ouais. C'était vraiment très compliqué. Sans se cacher, je pense qu'on a eu y a eu des discussions un petit peu animées au sein de l'association avec des gens qui ont dit non, on peut pas annuler. Donc effectivement, est venue rapidement cette idée de dire bon, on peut pas dire qu'on déplace Capitole du Libre parce que de toute façon, on va annuler des conférences, on n'est pas en capacité de garder tout le programme qu'on avait imaginé. Donc rapidement est venue l'idée de dire bon, ben, on dit Capitole Libre est annulé, mais on va rebondir en faisant quelque chose de différent et à côté.
Et coup de bol, il y avait un nom de domaine qui était disponible.
Oui, sur une idée originale de Manu, quand même. Il faut rendre à César.
Bah, ouais. Apparemment, tout le monde a bien aimé. Donc.
Du coup, c'était éclaté entre quatre lieux, donc il n'y avait pas le brassage qui était voulu au départ. C'est mieux que rien.
Ouais.
C'est mieux que rien.
Enfin, c'est mieux que un dixième du programme originel.
Je sais pas si un dixième. Enfin, je vais pas compter, mais en tout cas, c'est oui, c'est avec le recul, moi, je suis contente qu'on ait pu faire quelque chose, quoi.
Moi, je pense qu'on a eu beaucoup de. Enfin, on a été surpris, hein, honnêtement. Enfin, moi, j'ai été surpris, en tout cas, de tous les témoignages d'affection, de soutien qu'on a pu recevoir de la part des orateurs, des sponsors, des visiteurs, des. Enfin, de
oui,
tout le monde.
Il y a même des sponsors, donc vous leur avez vendu des places sur des flyers, des trucs sur les présentations vidéo et tout ça, et qui ont dit OK, mais pour nous,
ouais, on
faut
a,
garder
on,
l'argent. Quoi.
On a des sponsors. Enfin, il y a des sponsors qui m'ont appelé lundi après-midi en disant c'est pas grave. Enfin, cet argent-là, on vous le donne quoi que vous fassiez. C'était top. Donc. Donc non, c'était. Enfin, on a été un peu surpris. On a aussi été surpris, je pense, tous par la volonté qu'ont eu certains de, enfin, des membres de l'association qui ont vraiment été
hyper
surmotivés pour donner un coup de main. On était incapable, avec le noyau habituel de Capitole Libre,
de refaire ce qu'on
avait prévu ou même juste de rebondir. Effectivement, enfin, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps la semaine dernière à faire des choses un peu plus administratives. Annuler des traiteurs, des choses.
Ouais.
pour qu'on soit pas financièrement en difficulté. Donc, on a réussi à, je pense, à s'en sortir financièrement et avoir un programme qui tienne la route. Donc c'est tout bénef.
C'était pour éviter justement de couler définitivement l'association. Une partie des intervenants, dont les plus prestigieux, qui ont annulé leur venue avant même que. Alors que vous disiez, on est en train de construire quelque chose. C'est quoi ça pour vous? C'était un manque de confiance ou cela vous a facilité la tâche au final?
On a eu une communication qui était compliquée la semaine.
Semaine
où effectivement on a annoncé qu'on annulait Capitole Libre. On a assez rapidement dit qu'on voulait organiser quelque chose d'autre, mais que ça serait différent. Ça a été. Enfin, je comprends que les orateurs et on peut. Enfin, j'étais en relation avec plusieurs personnellement et c'est vrai que c'était compliqué, on savait qu'on allait en perdre. Enfin, je pense que tous ceux qui ont annulé, de toute façon, ils reviendront en 2016, donc la date est prise.
C'est des nouveaux partenaires que vous avez eus, du coup, puisqu'il y a Equito qui a proposé ces lieux, il y a donc le Multiple, la Serre, le Fab Lab. Ces trois noms, c'est le même lieu. Hein,
oui.
Voilà. Il y a aussi donc Epitech Toulouse qui a
proposé
un complexe. C'est des nouveaux partenaires que vous avez, qui sont offerts à vous. Est-ce que du coup, vous dites, on va peut-être ne plus le faire à l'INP pour l'occasion? Vous vous dites, tant mieux, ça, c'est un chouette coup de main.
Moi, je dis que c'est trop tôt pour dire ça.
Je suis d'accord.
Mais au moins, ça vous rassure de savoir qu'il y a cette possibilité-là. Quoi.
Ah ouais, non, c'est vrai que c'est tous ces responsables de lieux qui nous ont proposé leur aide. Pour certains, donc on a organisé des bouts du bazar du libre chez eux. Et c'était vraiment assez génial. Quoi. Et du coup, ça donne des idées, pas forcément pour le Capitole du Libre, mais pour d'autres choses, d'autres partenariats, d'autres événements. Quoi,
si possible, sûr. En dehors de la saison froide.
Oui. Toi, t'as eu froid, non, Amiris?
Dimanche, j'étais quasi à faune.
T'es pas le seul, apparemment.
Ouais. Est-ce que il y a eu des conflits dans l'organisation des remises en cause dans cette semaine de rattrapage?
Oui.
Oui. C'était compliqué, ouais.
Oui, ça a été compliqué.
Oh, j'en ai été témoin, mais...
Oui, bah...
Donc, je voulais savoir si vous étiez prêt à le dire. Et est-ce que finalement, c'est vous dites, il y a peut-être des décisions qui... Parce que certains ont râlé sur le fait que la décision a été prise un peu rapidement.
Bah, il y a... En fait, c'est difficile de dire qu'est-ce qui a pêché, qu'est-ce qui n'a pas pêché, parce qu'en fait, on n'a pas du tout encore tiré les bilans de tout ça. Et c'est... C'est hyper difficile de répondre à cette question maintenant, en fait.
Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez appris de cette situation et qu'est-ce que vous en retirez surtout de positif?
Mmh.
n'avait pas préparé les antisèches, là.
Qui a... Enfin, bah, déjà que sans toute l'organisation en amont, on n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit. Tout ce qui a été fait en amont a resservi, quoi, pour cette semaine. Alors, ensuite, que moi, je ne sais pas mener des réunions, ça, c'est sûr. C'est catastrophique. Hein, tu as vu lundi, mardi.
Ouais, mais c'était compliqué. Enfin, il y a des réunions où les gens voulaient s'exprimer aussi, enfin, voulaient manifester aussi. Enfin, tu l'as dit, vis-à-vis de la décision qui était d'annuler. Donc, je pense que c'était aussi, il y avait aussi une nécessité que chacun s'exprime. Et il y a des volontés qui sont nées aussi de cette expression. C'est un peu dur, effectivement, encore aussi proche d'en tirer toutes les leçons. Après, je pense que le bénéfique, c'est qu'il y a eu quelque chose et qu'il y a des gens qui sont rentrés dans le jeu, qui étaient un peu restés à côté au début. Donc, c'est quand même un bénéfique aussi.
Bien. On en rediscutera bien plus tard, je suppose. Lionel et Emmanuel, merci beaucoup, en tout cas.
Merci à toi.
Merci pour ton invitation.
D'en avoir parlé, et surtout, moins de 3 jours après la clôture, c'était pas évident.
Et on va dormir maintenant.